Bonjour chers fidèles d'IDFM, Didier pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte où l'on va aborder un sujet douloureux, malheureusement, terriblement actuel. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors Louise, on a fait ta connaissance il y a quelques semaines lorsque tu étais venue présenter la JVO, la journée...
La JOV plutôt.
La JOV. La journée des oubliés des vacances.
C'est ça.
Avec exact. Monsieur Bruno Conti, secrétaire général de la Fédération du Val-d'Oise du Secours Populaire. Secours Populaire où tu interviens à titre de bénévole, c'est ça?
C'est exact. Du coup, je suis stagiaire, donc notamment pour cette fameuse journée et également pour un autre événement pour les personnes plus âgées.
Le banquet des cheveux blancs.
C'est exact.
Voilà. Mais là, tu viens nous parler d'un autre sujet, puisque tu es étudiante et que tu as rédigé un mémoire de master sur un sujet brûlant, lequel ?
Alors, j'ai décidé de faire mon mémoire sur l'aide sociale à l'enfance, et notamment donc, sur l'enfance placée et la socialisation suite à ce placement.
Alors, pourquoi avoir choisi un tel sujet ?
Alors, moi, je viens de la Nièvre, donc un département, on va dire, très, très rural. Et justement, je trouvais ça, enfin, et j'ai connu également des jeunes placés dans la Nièvre et également des jeunes placés du coup dans des milieux plus urbains. Et je trouvais ça intéressant de faire une analyse socio-spatiale et voir si le territoire et aussi les structures de placement avaient un lien avec leur socialisation à la sortie.
Alors, une dédicace spéciale à Céline. Céline qui nous a raconté son long combat victorieux pour reprendre le nom de son père biologique, malgré l'adoption plénière dont elle avait fait l'objet dans son enfance. Céline qui a connu de nombreux foyers. Alors, c'est un podcast qu'on peut retrouver sur le site de l'émission, un podcast du 2 mai 2024. Céline, je t'embrasse. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un enfant placé aujourd'hui ?
Être un enfant placé aujourd'hui, donc déjà, je dirais, enfin, déjà c'est un peu compliqué dans le sens où il existe plusieurs institutions, donc il y a la protection de l'enfance et il y a aussi la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est deux choses différentes et pour autant, dans les deux cas, c'est des enfants qui sont placés, mais qui n'ont pas forcément le même âge et qui n'ont pas forcément les mêmes parcours de vie. En ce qui concerne l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, je trouve ça important parce que je pense que c'est compliqué à savoir et certaines personnes ne le savent pas. Donc l'ASE, en fait, c'est une organisation de la protection de l'enfance, qui, du coup, la protection de l'enfance est une institution qui a plusieurs organisations, donc dont l'ASE. Et donc être un enfant placé, moi je vais parler plutôt de ce qui concerne donc l'aide sociale à l'enfance. C'est souvent sous une directive judiciaire suite à une décision judiciaire. Il me semble que c'est pour 75 ou 80% des enfants. Ils sont placés suite à une décision judiciaire. Souvent, dans ce cas-là, c'est suite à une défaillance entre guillemets. Parentale, donc soit les parents sont absents ou sinon ils ont du mal à gérer tout ça.
Enfant placé, soit en foyer, soit en famille d'accueil, ou les deux.
C'est ça. C'est vrai que du coup, j'en parle beaucoup dans mon mémoire, mais le parcours d'un enfant placé est plein de fractures dues notamment à de nombreux placements en fait. Donc ils peuvent être placés en foyer, mais ensuite en famille d'accueil. Et aussi, la différence, c'est qu'il existe plusieurs formes de foyers. Donc, il y a le village d'enfants dont j'ai parlé. Mais du coup, il y a aussi des foyers qui peuvent être des maisons d'enfants à caractère social et tout ça. Donc, moi, c'est vrai que dans mon mémoire, je m'intéresse plus aux foyers plutôt qu'aux familles d'accueil.
Voilà. Alors, avant, on parlait de ces enfants comme les enfants de la DAS, hein, la Direction départementale d'action sociale. La DAS qui n'existe plus depuis longtemps et qui est maintenant remplacée par l'ASE.
C'est ça.
Enfin, l'expression est restée. Mmh. À preuve, première pause musicale, une très belle chanson qui s'appelle « Enfants de la DAS », justement, de Rumantique. Alors, c'est un titre dédié aux enfants qui vivent en foyer ou en famille d'accueil et qui subissent les dérives de leur propre famille ou parfois du personnel des services de la protection de l'enfance. Alors c'est une histoire réelle que Romantique raconte puisque lui-même a été placé et il a une pensée pour tous ces enfants qui subissent les méfaits soit de leur famille, soit des services de protection de l'enfance. Hein, je le cite sur son compte YouTube. On écoute Romantique, enfant de la DAS.
Il était 8h environ quand ces personnes sont venues me chercher. Je ne comprenais rien dans une voiture, ils m'ont balancé. Où allons-nous et pour quelle raison je suis parti? Je n'aurais jamais pensé qu'un jour on me retirait de ma famille. Arrivé dans des lieux spacieux, plein de dortoirs. Les gosses qu'il y avait n'avaient pas la même histoire. J'ai raconté la mienne d'un matin la mauvaise scène. Mon passé était sain, zen, à présent j'ai des chaînes. Retenu pour que mon bonheur ne puisse pas continuer. Le malheur est venu, j'ai su qu'il fallait pas être muet. Tous les soirs dans ma tête, j'enquêtais pour trouver la vérité. Dans un lit poussiéreux, les murs affreux qui m'ont motivé. Le temps passé et la souffrance me surpassait. Ma mère au bout du monde pleurait, je le ressentais. Tirer les points forts pour sortir de ce décor. Séparé de sa famille, quand on vit, c'est pire que la mort. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Jésus. Douloureuse rupture, je vois pas mon futur. Loin de chez moi, entre quatre. Par des personnes nommées éducateurs, formées pour nous donner soi-disant toujours le meilleur. Les repas ponctuels m'avaient fait perdre l'appétit. Les journées étaient longues, paralysées par l'ennui. Période scolaire, je marquais ma colère sur mes cahiers. Je ne voulais plus rien faire, mes bulletins étaient abusés. J'ai su par la suite que le juge des enfants m'encadrait, qu'il avait la cause de mon placement dans ses dossiers. Une rumeur disait que l'on est suivi jusqu'à 18 ans. Et cette rumeur était vraie, fallait vraiment être patient. Je ne recevais aucune visite de mes parents. J'étais tout seul dans une cour où jouait l'enfant inconscient. Quand un jour un courrier, une lettre m'a été donnée, où à l'intérieur il disait que chez moi j'étais en danger. Par la suite j'ai deviné que les gens qui nous entouraient étaient jaloux envers nous, la suite tu la connais. C'est dur, dur, les soirs je murmure. Maman, papa, j'ai des Jésus. Douloureuse rupture, je vois pas mon futur. Loin de chez moi.
Voilà, nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Louise qui continue à nous parler de l'aide sociale à l'enfance. Dans ton mémoire master, Louise, tu cites un témoignage particulièrement explicite sur la face cachée des foyers.
Alors, oui, alors c'est un livre écrit par Lies Loufoque. On parle de lui comme le porte-parole de ses enfants placés, parce que lui-même a été placé. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'il parle de son expérience pour essayer... au maximum, on va dire, d'aider justement ces jeunes-là, peut-être à en parler plus facilement autour d'eux et aussi à faire bouger les choses, parce qu'il y a, comme il dit, plusieurs faces cachées et plusieurs dérives de l'aide sociale à l'enfance, et c'est bien d'en parler.
C'est bien quand ce sont des témoignages vraiment issus de gens qui ont vécu cette expérience et qui ont réfléchi et qui veulent donner justement un éclairage que les gens n'ont pas forcément de l'extérieur.
C'est ça.
Elias se fait le porte-parole justement de ses enfants. On va écouter un extrait du podcast Les Pieds sur Terre du mercredi 12 mars 2025 sur France Culture qui s'intitule Elias Loufoque, rescapé des foyers.
La première année, contrairement à quand j'étais en famille d'accueil, disons-le clairement, j'étais une grosse victime. Je me défendais pas, j'avais peur des autres. Il y avait une violence, des espèces de rituels où tu avais des plus grands qui pouvaient faire bouffer leur caca aux plus petits. Il y avait un jeu qui consistait à se mettre en ligne avec un grand qui cognait le plus fort possible dans les épaules ou au niveau du thorax. En fait, c'était de la violence en permanence, quoi. Des agressions sexuelles. Et moi, j'ai été la première année victime de violences sexuelles commises par un jeune du foyer qui approchait de la majorité, en fait. Et ça a été, pour moi, une souffrance absolue. Et c'est là où, dans le foyer, j'ai eu énormément peur, parce qu'en fait, je me suis dit, il n'y a pas d'échappatoire. On est scolarisés dans le même collège, donc il n'y a pas de moment de répit, en fait. Et donc, finalement, je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Un jour, on a découvert le corps de Cindy, donc, qui était une jeune fille placée dans ce foyer, pendue au barreau de son lit. Et Cindy, c'est une jeune fille qui était elle aussi victime de violences sexuelles commises par les garçons du foyer. Moi, j'en ai beaucoup voulu aussi aux adultes qui travaillaient dans cet établissement, parce qu'en fait, tout le monde le savait en réalité. Tout le monde le voyait, tout le monde le savait que c'était des choses qui se produisaient à la Tournelle, mais on avait beau alerter la direction, il n'y avait rien qui se passait. Tout ça aurait pu ne jamais se produire si les adultes qui étaient présents dans cette structure avaient pris leurs responsabilités. T'avais des éducs qui étaient très bien, mais qui, du coup, en fait, intégrés dans ce système-là, est impuissant et confronté à ça sans que ça génère chez eux trop de révolte. Ça, j'ai jamais compris. C'est la banalisation du mal, en fait. Voilà.
Les services sociaux qui débarquent chez toi, c'est pas bon. La juge n'a pas hésité à t'envoyer dans de la maison. Plus d'amis, plus de famille, à des kilomètres de chez toi. Dans ta tête, c'est le bordel. Souvent, tu penses au rempart. Tu pars dans des trucs bizarres, les 400 coups, tu les fais. Fuguer, dormir dehors, tu te fous de ce qui peut se passer. T'es livré à toi-même, la famille manque à l'appel. T'as stoppé les cours, école buissonnière, maman tombe de haut. Les éducateurs sont là pour t'aider, mais pas t'entasser. Tu préfères rester dans ton coin, apitoyé sur ton sort. C'est pas les poteaux du foyer qui vont te sortir de ce décor. Ton audience arrive bientôt, là juste fera pas de cadeau. Tu fais le mec dur à leur côté, par t'étais si gentil. Une fois seul dans ta chambre, le soir c'est les larmes qui tombent. Tu sais fumer pour oublier, mais le lendemain c'est pareil. Mouillé dans des affaires bizarres, tu noies ta peine dans la taille. Tu écoutes ma voix, je sais ce que t'endures. La vie de foyer, je sais les temps sont durs. Enfermé dans cette pièce, à te poser des questions. J'ai vécu la même chose, être loin de la maison. Petit, écoute ma voix, je sais ce que t'endures.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Louise qui continue à nous parler de l'aide sociale à l'enfance. Alors, qu'est-ce que tu avais raconté sur l'IS dans ton mémoire ? Pourquoi alors, l'enfer des foyers ?
Alors, en fait, c'est le nom de son livre donc, que j'ai juste repris. Et en fait, lui va parler de toutes les violences qu'il a vécues. Et notamment, la première, je dirais, violence qu'il a vécue, c'est notamment la séparation avec sa première famille d'accueil qu'il considérait comme sa vraie famille. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, il y a eu une décentralisation de la protection de l'enfance. Donc, il me semble en 1983. Et du coup, maintenant, chaque département doit gérer ce truc-là avec leur propre structure, mais leur propre argent aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a, je pense, aussi autant d'inégalités entre chaque département. Et du coup, en fait, c'est assez compliqué du coup, parce que sa première... donc, je reviens sur l'IS Loufoque. Sa première famille d'accueil, en fait, a déménagé donc dans un autre département. Et en fait, ils n'ont pas voulu, enfin la protection de l'enfance, un ASE, ils n'ont pas voulu qu'ils les suivent, quoi. Donc il a dû rester dans le département là où se trouvait sa mère biologique. Et du coup, il a dû être placé après ça dans un foyer.
Alors effectivement, une des images que l'on a, c'est que quand une famille d'accueil s'attache trop à un enfant, on le lui retire. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Je dirais oui et non. Je pense que je suis mal placée pour en parler vraiment. Du moins, je dirais que on va dire que peut-être que l'enfant n'a pas, on n'écoute peut-être pas assez la volonté de l'enfant en ce qui concerne l'ASE, ce qui est pourtant finalement ce qu'on demande pourtant. On parle beaucoup de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais pour autant, je pense que dans la protection de l'enfance et à l'ASE, on n'écoute peut-être pas assez cette parole-là.
Souvent, on a l'image aussi qu'effectivement, on enlève un enfant de sa famille d'accueil où il se sent bien. Par contre, on l'oblige régulièrement à revoir ses parents biologiques qui peut-être l'aiment peut-être de façon insuffisante, on va dire.
En fait, l'objectif d'un placement, c'est qu'il soit de base provisoire. Donc, ils essayent au maximum, finalement, de garder un peu un lien quand ils le peuvent avec les parents. Donc c'est vrai que peut-être que des fois on n'écoute pas assez, même si l'enfant ne veut pas forcément revoir les parents, on lui laisse pas forcément le choix parfois, je sais pas.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Louise qui continue à nous parler de l'aide sociale à l'enfance. Alors toi, tu as connu, tu disais au collège, des enfants placés dans un village d'enfants.
Oui, c'est ça.
Tu peux parler un petit peu, tu m'as dit hors antenne que pour eux, c'était normal de le dire, enfin, c'était quelque chose d'assez admis parmi vous.
Oui, alors nous, du coup, je pense que c'est aussi lié à l'endroit, au territoire, justement, au fait que ce soit rural et qu'on va dire que les liens soient assez forts entre nous. Et et qu'on soit dans un petit collège aussi. Donc en fait, finalement, on se connaissait tous. Et je ne sais pas s'ils en parlaient vraiment ouvertement, mais du moins, on savait qu'ils habitaient dans ce village-là, donc on savait, enfin dans le village d'enfants. Donc on savait qu'ils étaient de fait placés. Après, oui, on pouvait en parler un peu entre eux. Je pense que c'était moins tabou parce que le village d'enfants pourrait y être allé. J'avais une amie là-bas, donc j'y suis allée plusieurs fois. C'était quand même quelque chose de c'était pas quelque chose de fermé. C'était vraiment, faut vraiment le voir comme un petit village avec plusieurs pavillons et du coup des, on va dire des espaces pour les enfants pour qu'ils s'amusent à l'extérieur, tout ça. Voilà, c'était, faut vraiment voir ça comme quelque chose d'ouvert. Donc je pense que c'était aussi pour ça, enfin, pour eux c'était peut-être moins stigmatisant de se dire qu'ils vivaient du moins temporairement là-bas plutôt que dans un foyer réellement.
Tu peux nous dire le nom de ce village ?
Alors le village, ça a changé parce que ça a été repris par une association, mais je pense que ça a toujours le même nom. Du moins à l'époque, ça s'appelait le village d'enfants Pierre et Paul Sory, parce qu'il a été créé par justement Pierre Sory, qui a également rajouté le nom de sa femme Paul.
D'accord. Parce qu'il y a d'autres structures, par exemple, on connaît Annie Dupéret.
D'accord.
Qui a créé beaucoup de villages d'enfants, mmh. SOS, etc.
Donc, et SOS, le groupe voilà. SOS.
Oui.
Justement, ce village d'enfants-là a ouais. été repris par le groupe SOS il y a quelques années pour le rénover, etc.
Alors, tu m'as dit aussi que maintenant tu es étudiante, hein, donc, mais que tu as connu pendant ces études de sociologie, je crois, une jeune fille qui a vécu l'expérience du foyer.
Oui. Elle, c'était plus dans une famille d'accueil. Et c'est vrai que je pense que pour elle, c'est plus compliqué de le dire, mais ce que je comprends, ce qui est totalement compréhensible également. Je pense que c'est difficile de se l'avouer et de l'avouer aux autres. Et je pense que ça reste quelque chose de très stigmatisant, du moins. Et pour eux, donc ils préfèrent ne pas en parler pour pas justement changer le comportement des autres envers eux. Pour pas qu'ils se voient différents, en fait.
Ouais. Pourtant, toi, elle t'en a parlé à toi.
Oui.
Pourquoi à toi?
il faudrait lui poser la question.
C'est venu comme ça, c'est toi qui lui as posé les questions
ou... Non, pas du tout. C'était un contexte assez particulier. Elle a souhaité m'en parler, mais c'est vrai que pendant très longtemps, nous deux, on n'en a pas du tout parlé. Elle m'en parlait de temps en temps parce qu'elle savait que, elle sait que je fais mon mémoire dessus. Et voilà.
D'accord. Et tu m'as dit qu'elle se destinait à quelle perspective professionnelle ?
Le social.
Comme toi ?
Comme moi. Et comme je pense la plupart, comme beaucoup d'enfants placés.
Alors que toi, tu n'as pas été placée.
Non. Mais justement, je pense que j'ai envie d'apporter aussi une certaine stabilité à des enfants qui n'ont pas forcément.
Alors donc, tu vas terminer ton mémoire, ta formation de sociologie, et après ?
Eh bien, après, c'est une bonne question. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, je me destine plus à être dans une association, donc comme le Secours Populaire. Mais du moins, je me destine à un métier pour aller vers les autres et à aider les autres. Après, je ne me ferme pas les portes. Je pense que plus tard dans ma vie, je me réorienterai vers l'aide sociale, vers la protection de l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse.
D'accord. Alors, soit une formation de droit aussi, pour aider juridiquement les enfants.
Oui, après, on peut faire ça. Moi, le droit, ce n'est pas non plus mon point fort. Donc voilà, mais pour l'instant, je me vois pas refaire du moins des études, mais potentiellement passer des concours pour faire des formations, ça, pourquoi pas.
Oui, comme éducateur en foyer,
voilà.
C'est ça ?
C'est ça.
Éventuellement, ouais. Assistante sociale, peut-être ?
Peut-être,
ouais. Alors oui, tu disais que c'est pas facile d'être un mineur placé en foyer, notamment on commence à avoir de plus en plus d'articles, de reportages sur une violence bien spécifique qui touche les foyers, en particulier les jeunes adolescentes ?
Oui. Après, il y a plusieurs formes en fait, de violence, parce qu'il peut y avoir des violences entre les jeunes, aussi des violences entre le jeune et l'éducateur. Et aussi, il y a donc les violences physiques, mais aussi morales. Et encore une fois, je pense que la plus grosse violence qu'ils vivent, c'est d'aller d'institution en institution, ce qui leur provoque vraiment une rupture. Et en fait, les empêche clairement d'avoir une stabilité et de pouvoir avoir, une socialisation propre. Sinon, évidemment, oui, il y a des violences. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'aide sociale à l'enfance manque cruellement d'argent. Et ça n'excuse rien. Mais du coup, il n'y a pas assez d'éducateurs comparé au nombre d'enfants. Ce qui peut, c'est aussi, ça qui provoque des violences. Après, ça n'excuse rien. On voit quand même des placements, par exemple, dans des hôtels. On a l'année dernière, donc en 2024, il y a la petite Lily, on en a beaucoup entendu parler, qui s'est suicidée dans un hôtel. Parce qu'en fait, il n'y avait pas du tout d'éducateur qui était là. Et pour autant, ça intervient quand même 2 ans après la loi Taquet. Donc la loi Taquet qui a instauré plus quelque chose, qui promettait quelque chose de plus stable et interdisait les placements dans les hôtels. Voilà. Après, encore une fois, ça dépend des départements, de l'argent qu'ils ont et des structures qu'ils ont. Mais c'est vraiment important d'avoir toutes ces choses-là en tête.
Alors, je parlais de violences bien spécifiques, des articles, notamment que les mineurs, les jeunes adolescentes placées dans les foyers, sont des proies de prédilection pour les réseaux de proxénètes. Alors, c'est assez hallucinant. Il y a eu plusieurs articles, par exemple, dans Libération, le 18 juin, ou un autre, le 19, d'ailleurs, le lendemain, qui raconte l'histoire d'une petite fille, qui s'appelle Ilona, 11 ans, forcée de se prostituer pratiquement la première nuit qu'elle a passée en foyer. C'est-à-dire qu'elle a été contactée par une autre jeune fille qui était au foyer et qui lui a fait miroiter de l'argent facile. Et comme elle tombait un petit peu dénue, ça a été un peu des menaces jusqu'à temps que la petite fille, finalement, accepte de se soumettre à cette prostitution. C'est assez hallucinant. Ce qu'on peut dire, c'est que l'État est en échec. Parce qu'ils décrètent des lois, mais ça ne suit pas. Par contre, eux, les proxénètes, sont tout à fait organisés.
C'est ça.
Malheureusement.
Malheureusement.
Il faudrait l'inverse. Voilà. Deuxième pause musicale. Alors, MC Jean Gabin, qui nous chante « Enfant de la DAS ».
De ne pouvoir voir les tiens, faute de rien. Parce qu'à partir de maintenant, c'est à eux que t'appartiens. Trimballer comme une vieille drôle, ils diront quoi dire, quoi faire, quoi becter. Les chiottes turques sont excellents, pas d'excellent, ma gueule. C'est un luxe, et les jours de fête, pas de quoi grimper au luxe. Juché sur ses dossiers, jugé, puis casé. Parce que tes biopes n'arrivent plus à se blairer. Si par ce coup-mou, t'as des frangines et des frelons, on a frangeux. Tu risques pas de grandir avec eux, on te séparer comme les bœufs. Je parle-t-il pas sur mes aïeux. Si t'as de la famille, c'est pendant. Dans mon cas, contre un être orphelin. Mon pater Amelin, cet affieux assassin a changé mon destin. Stopper celui de ma mère et son conjoint, le cocon explosé, t'inquiète, y'a de la menthe de ce côté. SVP 11-11, famille d'accueil en manque de fraîche, comment veux-tu être conciliant quand des tocards prennent pour tes parents? C'est vexant, pas de suivi chez les psys. Et si tu débloques, on te dira que t'es gris. Et si on te larche chez les dingues, y'a plus de crédit, comme quoi l'amour de l'oseille est plus forte que celle de l'être. Dans cette chienlit, tu dois apprendre et grandir vite. Un enfant, ça devient adulte que si tu lui laisses le temps. Et c'est navrant. Enfant de la DAS, plus de peine que d'allégresse. Enfant de la masse, enfant de la DAS, tant de haine. Enfant de la DAS, plus de peine que d'allégresse.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous retrouvons Louise qui continue à nous parler de l'aide sociale à l'enfance. Alors dans ton master, Louise, tu parles d'un passage à l'âge adulte prématuré pour tous ces jeunes. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Oui, parce que en fait, ces jeunes-là, ils sont placés donc jusqu'à leurs 18 ans, s'ils ne sont pas, les parents ne peuvent pas les reprendre. Et en fait, donc pour certains, on peut prolonger le placement jusqu'à 21 ans. Mais pour certains, c'est un contrat jeune majeur. Et si ce contrat, en fait, ils ne l'ont pas, ça veut dire que le jour de leur anniversaire, ils doivent quitter la structure, ce qui est hyper violent pour un anniversaire déjà, et puis pour un jeune de 18 ans. Et encore une fois, en fait, c'est en inadéquation avec la société actuelle qui, du coup, on va dire, elle motive les jeunes à faire de longues études, donc toujours plus longues, pour avoir voilà pour pouvoir ensuite avoir un métier et du coup en fait les jeunes maintenant on va dire que ils s'installent réellement dans une vie professionnelle vers 30 ans alors que ces jeunes-là finalement en sortant ils doivent déjà avoir tout ça donc déjà en fait avec toutes mes lectures c'est revenu plusieurs fois, il y a plus d'un tiers en fait, des jeunes sans domicile fixe qui sont en fait, des enfants qui ont été placés parce que justement on leur demande de trouver l'argent et également du coup un logement à la sortie de leur placement, ce qui est quand même très compliqué.
Déjà pour un jeune d'une famille disons qui fonctionne bien,
ouais.
C'est très difficile.
C'est très difficile.
Voilà. Alors des jeunes un petit peu dans une situation compromettante, enfin c'est... Voilà.
Voilà. Donc, c'est compliqué pour eux.
Alors, dans ton mémoire de master, tu cites le cas du village d'enfants de Châtillon-en-Bazois.
Oui, c'est dans la Nièvre.
D'accord.
Le village d'enfants, donc Pierre et Paul Story.
C'est celui-là.
C'est celui-là.
Tu parles aussi d'un foyer éducatif, la Maison Fleurie de Mondeville, à Caen.
C'est ça. Donc là, c'est une association aussi, donc l'association AXEA, qui du coup, elle, a plusieurs branches, dont le DAFE. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le département accueil familial et hébergement éducatif qui, du coup, s'occupe des foyers. Alors, contrairement donc, au village d'enfants, qui est un peu compliqué, mais le village d'enfants, auparavant, du coup, il prenait les enfants de 3 à 18 ans ou de 4 à 18 ans. Maintenant, ça, depuis le groupe SOS, ça a un peu changé. Il me semble que le village d'enfants, maintenant, il est en deux. Donc, à Châtillon, c'est les 3 à 12 ans. Et à partir de 12 ans, ils vont dans une ville un peu plus loin, dans un foyer cette fois-ci, là où se trouve notre lycée de secteur, donc à Decize, à Saint-Léger, à côté. Et du coup, qui eux reprennent les 12-18 ans de ce village-là.
C'est peut-être pas plus mal de découper un peu les âges, parce qu'entre très très petit et puis presque adulte, la cohabitation doit être compliquée.
C'est ce que je pense aussi, et surtout qu'en fait, le problème des placements, et notamment des placements collectifs, c'est qu'en fait, on n'écoute pas forcément le besoin individuel de chaque enfant, et donc ce besoin-là n'est pas toujours rempli. Et déjà, donc, je pense que si on coupe, on va dire... La tranche d'âge, c'est peut-être plus facile de remplir le plus grand besoin de tous. Seulement, en fait, la particularité du village d'enfants, c'est de regrouper les fratries, comparé à des foyers qui peuvent les séparer. Mais finalement, en fait, ça pose question, parce que le problème, c'est que si c'est des fratries avec des âges assez éloignés, ça veut dire que finalement, ils sont séparés. Donc voilà, ça pose quand même question. Mais du coup, la particularité de la MEX à Mondeville, c'est que justement, c'est un âge entre 14 et 18 ans. Donc voilà, sauf que le problème, c'est que du coup, ils arrivent à 14 ans. Ils ont pour la plupart, on va dire, connu déjà plusieurs ruptures de par le fait qu'ils aient connu plusieurs placements.
Voilà, Louise, notre émission se termine déjà, ça passe très vite. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, un appel peut-être, je ne sais pas.
Alors oui, c'est possible, j'aimerais faire un appel à témoignage. Si du coup vous connaissez des enfants anciennement placés, ou si vous êtes vous-même, enfin si vous avez été vous-même placé, n'hésitez pas à m'envoyer votre témoignage ou à me contacter afin qu'on puisse en parler si vous le souhaitez. Donc vous pouvez me contacter via mon mail, donc c'est dufour.louise@orange.fr.
Voilà. très simple comme adresse mail. Voilà, on espère que tu auras des témoignages parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient venir compléter ta propre expérience. Voilà, merci Louise.
Bah, merci Didier.
Voilà, c'était Didier pour ce rendez-vous compte consacré à l'aide sociale à l'enfance. Vous retrouverez le podcast de l'émission, bien entendu, sur le site d'IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse. Culture, jeunesse, solidarité, citoyenneté, environnement. On fait le plein dans notre département et dans notre rendez-vous compte, évidemment.